Bonjour, bonsoir, bienvenue dans les Bulles Nomades, le streetcast optimiste. Aujourd'hui, dans cet épisode 010, je vais faire un petit hors-série pour vous parler de jeux de société, qui est un thème qui a été proposé par d'autres streetcasters, et dont vous pouvez retrouver d'ailleurs les épisodes sur d'autres streetcasts. Donc pourquoi j'avais envie de vous parler de ça? Parce que j'ai assisté le week-end dernier à un événement qui s'appelle Paris et Ludique, qui permet de découvrir en fait des éditeurs de jeux, de sociétés, de jeux de plateau, de choses comme ça, de jeux de rôle aussi, et de découvrir de nouveaux jeux. Du coup, il me semblait que c'était une bonne occasion pour participer au thème jeux de société des streetcasts. Alors déjà un tout petit historique des jeux de société par rapport à moi, enfin mon historique par rapport aux jeux de société. Alors, évidemment, j'ai découvert les jeux de société avec les jeux familiaux que nous connaissons tous, comme le Cluedo, le Monopoly, ce genre de choses. J'ai aussi beaucoup joué à des jeux de cartes comme le tarot, la belote, ce genre de choses. Et puis ensuite, lorsque j'ai commencé à grandir, à être ado, j'ai pas mal joué aux jeux à collectionner, de type Magic ou Vampire. Où en gros l'idée c'est d'acheter un paquet de cartes avec des cartes particulières et puis ensuite d'acheter d'autres cartes pour compléter le paquet. Et en gros il y a déjà une stratégie dans le choix des cartes qui sont dans le paquet de cartes. Et ensuite on fait des duels où dans le cas de Vampire c'est à 5 personnes pour quelque part mesurer notre propre paquet de cartes, donc notre propre deck de cartes face à celui de l'adversaire. Et quelque part, au lieu d'avoir un jeu de société commun à tous, chacun a son propre jeu construit et la construction du jeu de cartes fait partie de la stratégie. Voilà, donc je vais pas vous parler de ça aujourd'hui parce qu'on va vraiment se focaliser sur les jeux de société. Mais c'est un petit peu mon historique sur tout ce qui est jeux de société, jeux de plateau, jeux de cartes. Et bah en grandissant, contrairement à beaucoup qui arrêtent de jouer aux jeux de société, j'ai continué à jouer et je me suis même intéressée à des jeux un petit peu plus poussés que le jeu de société familial classique lorsque j'ai découvert des jeux de plateau de stratégie, déjà comme Risk, qui est un des premiers que j'ai connu, qui doit être un des plus connus, et ensuite par exemple les Colons de Catan que j'ai beaucoup aimé, qui est un jeu où on a un plateau commun pour tout le monde, et puis sur ce plateau qui est une carte en fait, une carte d'une région, et ben on peut construire des maisons, on peut construire des routes, on peut récupérer des ressources, et puis ben, l'idée c'est de coloniser un maximum de la carte contre les adversaires. Donc c'est vraiment en fait une version jeu de plateau d'un jeu de stratégie tel qu'on pourrait l'imaginer en jeu vidéo comme Age of Empires par exemple, ou ce genre de choses. Et j'ai beaucoup aimé le côté stratégique de ce genre de jeu, qui est vraiment finalement plus des jeux pour adultes que des jeux pour enfants, dans le sens où la stratégie est quand même assez élaborée. Et en fait, lorsque vous rentrez dans le domaine de ce qu'on appelle les jeux de plateau, qui sont plus niches finalement, qui sont moins connus que des jeux comme le Monopoly, il existe plein de types, hein, je vais en reparler plus loin dans la bulle, mais l'idée c'est que c'est quand même plus prévu pour peut-être jeunes adultes et adultes. C'est pas vraiment le genre de jeu qu'on fait avec des gamins, parce que vous vous retrouvez avec des jeux avec un plateau avec 50 000 pions, 50 000 types de cartes, des règles qui sont assez complexes à comprendre, même si une fois que vous comprenez comment ça se joue, il y a beaucoup de jeux qui sont faciles à jouer, mais c'est pas accessible. Il y a une sorte de barrière à l'entrée entre guillemets par rapport au fait que ces jeux de plateau sont quand même assez élaborés en termes de stratégie. Voilà, donc un de mes jeux préférés dans ce domaine-là, donc de jeux de plateau un peu stratégique, s'appelle Race for the Galaxy, donc la course pour la galaxie, qui est un mélange de jeux de cartes, comme je vous parlais, cartes à collectionner type Magic, etc., et le côté jeu de plateau. La différence avec un jeu de cartes à collectionner, c'est que Race for the Galaxy fournit le paquet de cartes, et tout le monde pioche dans le même paquet de cartes. Il n'y a pas besoin d'acheter des cartes chacun de son côté. Tout est dans la boîte comme un jeu de plateau classique. Mais en fait, dans le paquet de cartes global, il y a plein de stratégies différentes possibles. En fonction, est-ce que vous voulez aller vers du militaire, ou du coup vous avez des cartes qui vous donnent de la puissance militaire? Est-ce que vous voulez aller vers du commercial, vous avez des cartes qui vous permettent d'acheter, de revendre des ressources pour augmenter votre exploration, etc. Et il y a ce petit côté stratégique de choisir, en fait, quand on pioche des cartes, lesquelles on garde et quelles stratégies on essaye de déployer au fil du jeu. Donc à ce niveau-là, c'est très intéressant. Et ensuite, j'aime bien Race for the Galaxy aussi parce que dans l'univers, c'est space opéra exploration. En gros, l'idée, c'est que vous tirez des cartes et vous êtes comme vous avez une planète de départ, donc vous êtes une civilisation sur une planète qui va explorer la galaxie et qui doit donc se développer, coloniser d'autres planètes et récupérer des ressources pour pouvoir coloniser, explorer les planètes, etc. Et donc le but, c'est que il y a donc 5 tours de jeu au maximum. Chacun choisit quel tour de jeu il a envie de faire sur les 5. Et puis ensuite, chacun joue ses cartes. Il faut payer le coût d'une carte pour pouvoir la jouer. Et le jeu s'arrête quand quelqu'un a posé 12 cartes. Donc c'est vraiment un jeu de course quelque part, bah, d'où le Race for the Galaxy, à celui qui va réussir à coloniser le plus vite la galaxie. Et après, quelqu'un qui pose une carte qui coûte 1 va pas gagner le même nombre de points de victoire que quelqu'un qui a posé une carte qui coûte 6. Donc du coup, il y a un calcul de points à la fin. Voilà, donc si vous êtes un petit peu dans le délire des jeux des jeux un peu science-fiction, galaxie, il y a plein de références à la culture populaire autour de la science-fiction dans le jeu. Et puis, bah, pour ceux qui aiment le côté stratégie, tactique, etc., c'est vraiment très intéressant. Ce qui pourrait manquer, c'est le côté confrontation directe avec les adversaires. Alors, peut-être que ça a été amené avec les extensions. Moi, j'ai pas joué avec les extensions. Mais dans le jeu de base, c'est vraiment chacun qui fait sa petite course dans son coin. Et on peut entraver les adversaires en prenant les cartes de leur stratégie à eux pour les empêcher de faire leur combo de stratégie, mais on peut pas attaquer directement les planètes des adversaires. Donc c'est plus un côté, chacun qui met en place sa stratégie, puis c'est celui qui va y arriver le plus vite. Et moi ça me plaît parce que j'aime pas trop la confrontation directe. Moi je préfère soit la mise en place de stratégie, soit la coopération. Du coup ça me plaît beaucoup. Voilà, un autre jeu que j'aime beaucoup, c'est Battlestar Galactica. Donc je vais pas trop vous donner en détail ce que c'est, mais c'est aussi un jeu de space opéra basé sur la série du même nom, donc Battlestar Galactica. Où là par contre c'est un jeu coop où chacun joue un personnage qu'il y a dans la série, qui est dans le vaisseau, le Battlestar Galactica. Le principe de la série, c'est qu'en fait les humains se font attaqués et décimés par les Cylons, qui sont des robots qu'ils ont créés puis qui se sont rebellés. Et le Battlestar Galactica s'enfuit avec une flotte de vaisseaux civils. Et puis il y a les fameux Cylons qui leur courent après. Et en fait, le jeu est basé là-dessus. C'est-à-dire qu'on est des dirigeants du Battlestar Galactica et on doit fuir les Cylons. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il peut y avoir un traître dans l'équipe. Donc c'est un jeu de coopération, mais avec potentiel traître et potentiel bluff. Donc c'est vraiment très intéressant. Pour terminer cette bulle nomade consacrée aux jeux de société, je vais vous parler de trois jeux que j'ai testés au fameux salon Paris et Ludique. Alors, le premier jeu s'appelle Sherlock 13, donc Sherlock comme Sherlock Holmes, qui est édité par l'Eteia Édition, qui est en fait traduit en français parce que le jeu existe déjà à l'étranger. Et en gros, le principe, c'est que c'est un jeu d'enquête minimaliste, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a juste 13 cartes, avec un paravent pour cacher les choses, et puis une petite feuille qui précise quel symbole il y a sur quelle carte, et pour pouvoir noter la réponse des autres joueurs. Donc le principe, c'est un peu comme le Cluedo. C'est-à-dire qu'il y a une carte, un des 13 personnages qui est un assassin, qui est le coupable, et les 12 autres cartes qui sont réparties entre les joueurs, qui sont distribuées entre les joueurs. Et il faut poser des questions aux autres joueurs pour essayer de déterminer qui possède quelle carte et être le premier, par déduction et par élimination, à accuser l'assassin. Sachant que c'est beaucoup plus simple que le Cluedo, puisqu'il y a juste 13 cartes, c'est tout. Et en fait, sur chaque carte, il y a une combinaison unique de symboles. Je crois qu'il y a 8 symboles au total. Et en fait, c'est en posant des questions sur qui possède quel symbole qu'on va en déduire quelle carte il a potentiellement, en sachant combien de symboles il a, de quel type de symbole. Voilà. Donc c'est un jeu qui se termine en 15-20 minutes, qui se joue à 2, 3 ou 4, et du coup ça fait vraiment une petite enquête, avec une petite réflexion, petite déduction, etc., mais de manière finalement beaucoup plus légère et rapide qu'un Cluedo qui peut des fois prendre une heure et demie, quoi. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé Sherlock 13, et d'ailleurs je l'ai acheté. Le deuxième jeu que j'ai testé au Salon Paris Ludique s'appelle Taggle, T-A-G-G-L-E. Et là, c'est vraiment un jeu apéro entre potes, où en gros, il y en a un qui va te dire une réflexion à la con, du genre « j'ai mal au ventre ce matin » ou je sais pas quoi. Et les autres joueurs piochent une carte dans laquelle il y a des répliques, du genre « oui, c'est parce que t'es con » ou « qu'est-ce qu'il peut y avoir comme remarque ?» ou t'aurais dû me demander avant, ou des trucs comme ça. C'est un peu des répliques un peu cinglantes. Et on est obligé de choisir une des quatre répliques, et puis du coup, au quatrième tour, il reste plus qu'une réplique. Et l'idée, c'est qu'à chaque fois, on dit « ta gueule » à celui qui a donné la réplique la moins drôle, finalement. Et puis, bah, au bout de 5 ou 6 « ta gueule » différents, bah, y a le joueur qui est éliminé. Donc ça, c'est vraiment beaucoup plus léger, beaucoup plus sympa, ça peut être très très drôle. Après, nous, on y a joué avec deux personnes qu'on connaissait pas, on était deux nous, et on a joué avec deux personnes qu'on connaissait pas. Et du coup, je pense que c'est le genre de jeu qui est quand même plus drôle entre potes qui se connaissent déjà, en fait. Parce qu'on a plus d'histoires personnelles les uns avec les autres, on ose plus facilement dire ta gueule, voilà, donc... Mais je pense que ça peut être intéressant de sortir ce jeu-là avec une bière entre potes, c'est plutôt sympa. Et enfin, le dernier jeu que j'ai testé au Salon Paris Ludique s'appelle Champion de Midgar, qui va sortir au mois d'août. Alors là, par contre, c'est vraiment un jeu de type setup hyper compliqué. Ça a l'air compliqué comme ça, parce qu'en fait, il y a un plateau avec... sur le plateau, c'est un espèce de village viking, en fait. Donc, il y a le marché, le temple, le terrain de chasse. Il y a des endroits où il y a des méchants qui arrivent. Et puis, chaque joueur a des petits pions, des petits ouvriers, en fait, qui choisissent de poser autour à chaque tour à un des endroits du village pour avoir des avantages, récupérer de la nourriture, récupérer des guerriers, récupérer de l'or, ce genre de choses. Et puis après, on va utiliser les guerriers pour attaquer les créatures. Et donc, chaque guerrier, c'est en fait un dé. Et du coup, on va lancer autant de dés qu'on a de guerriers et on va voir si on touche ou pas la créature, etc. Sachant que ça se fait en 8 tours et que l'objectif c'est de gagner des points de gloire, et en fait à chaque ennemi vaincu on a de la gloire, à chaque pièce d'or qu'on a ça fait gagner de la gloire, etc., etc. Donc en fait ça a l'air hyper complexe, d'ailleurs à expliquer comme ça, ça a l'air hyper complexe, mais en réalité c'est hyper drôle. C'est hyper sympa. Il y a un petit côté stratégique, puisqu'il y a que 8 tours, donc il faut bien choisir comment est-ce qu'on répartit les ressources, où est-ce qu'on met les ouvriers, etc., etc. Et en fait, une fois qu'on a compris comment s'installe le plateau, ça a l'air impressionnant comme ça, le nombre de dés, de petits personnages, de petits machins. Mais c'est en fait très très drôle, puis évidemment, avec l'ambiance nordique, viking, etc. Donc ça se joue à 4, 3 ou 4 joueurs, et c'est vraiment, vraiment sympa, j'ai vraiment aimé. Voilà, ce sera tout pour cette bulle nomade numéro 010 sur les jeux de société. N'hésitez pas à me dire si vous avez vous-même des jeux de société ou de plateau qui vous plaisent ou qui vous ont plu, de me dire si vous connaissez les jeux dont j'ai parlé aujourd'hui. Je serai ravie d'échanger avec vous sur le sujet des jeux de société parce que j'aime vraiment beaucoup ça. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté, à très bientôt, bonne journée, bonne soirée.